Bonjour à tous, enfin bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ce nouveau décryptage. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour une analyse qui s'annonce assez intense aujourd'hui.
Salut! Et ouais, très intense. C'est une immersion vraiment fascinante qu'on va faire là.
Ouais, c'est clair. Parce que, en ce moment même, il y a probablement un étudiant à Addis Abeba qui n'a jamais écrit une seule ligne de code de sa vie.
Absolument jamais.
Et pourtant, il est en train de déployer une application d'intelligence artificielle complète. Et au même instant, le Nigeria annonce la couleur de façon très très claire. En gros, le pays ne veut plus se contenter de consommer la technologie mondiale, il veut la diriger.
C'est ça, et ça c'est un changement de paradigme qui est juste foudroyant. Historiquement, l'infrastructure technologique, ça nécessitait des décennies de développement, des investissements, mais massifs en matériel lourd.
Des trucs inaccessibles, quoi.
Exactement. Et aujourd'hui, bah, la barrière à l'entrée, elle a littéralement fondu.
Et c'est vraiment le cœur de notre immersion aujourd'hui. Le document sur lequel on s'appuie pour cette analyse, il est passionnant. C'est le script d'une édition spéciale d'une émission de radio indépendante. Ça s'appelle « Le grand journal de Radio Tam Tam Africa ».
Oui, une émission qui revendique vraiment son affranchissement total de tout financement politique.
Voilà, ils veulent se concentrer uniquement sur les faits. Et ce document, en fait, il nous plonge dans l'entrée vraiment brutale de l'Afrique dans l'ère de l'intelligence artificielle. Mais ça s'arrête pas aux petits gadgets de la Silicon Valley, hein.
Ah non, pas du tout. Ça va beaucoup plus loin.
Ouais, ça traque l'impact réel sur la santé, la gouvernance, la justice et même la créativité. La mission de notre décryptage aujourd'hui, c'est de comprendre qui tire réellement les ficelles de cette transformation sur tout un continent.
Tout à fait. Et l'enjeu, il est énorme. Le document montre bien que ce n'est pas juste technologique, c'est vraiment civilisationnel.
Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que, avant d'aller regarder ce qui se passe tout en haut, dans les ministères, bah, le document nous emmène direct dans la rue, sur le terrain.
Ouais, et le script de Radio Tam Tam, il saisit très bien cette dynamique. Il observe vraiment la base. En fait, l'innovation initiale là-bas, elle ne naît pas du tout d'une directive du gouvernement.
C'est pas un plan d'État, quoi.
Non, ça explose au sein même de la population. L'exemple de Lagos, au Nigeria, c'est super frappant pour le coup. Le texte y décrit une explosion, mais vraiment une explosion des candidatures de développeurs.
Des centaines de jeunes, ouais.
C'est ça. Des jeunes qui rejoignent en masse les réseaux mondiaux d'intelligence artificielle.
Le terme qui est utilisé par la source, il est fort. Il parle d'une nouvelle génération qui se lève. C'est pas juste de l'enthousiasme passager, c'est une vraie volonté de rupture.
Une ambition très assumée.
Ouais. L'ambition affichée par ces développeurs, bah, c'est pas d'être les sous-traitants un peu dociles des géants technologiques occidentaux, c'est de concevoir, d'innover et d'exporter leurs propres solutions.
Ce qui est fascinant ici, c'est l'application du concept de saut technologique, ce qu'on appelle souvent le leapfrogging en anglais.
Ah oui, le fait de sauter une étape.
Exactement. Tu sais, tout comme plein de régions d'Afrique ont complètement ignoré l'étape des vieilles lignes téléphoniques fixes pour passer direct au réseau mobile.
Ils ont zappé les câbles en cuivre, quoi.
Voilà, et on observe exactement la même chose aujourd'hui avec le développement logiciel. En fait, pas besoin de construire des immenses fermes de serveurs locales quand on a un simple accès API aux plus grands modèles de langage mondiaux via le cloud.
Mais justement, parlons de cet accès, parce que le document nous emmène ensuite en Éthiopie. Et là, il parle d'une, je cite, « révolution silencieuse » portée par ce fameux mouvement du no-code.
Le sans-code, oui.
C'est l'idée que des milliers d'étudiants créent des entreprises sans maîtriser la moindre syntaxe complexe de programmation. Pour ceux qui nous écoutent, on pourrait dire que c'est l'équivalent moderne de l'imprimerie de Gutenberg.
C'est une super comparaison, ouais.
Avant, pour diffuser le savoir, il fallait des années de formation dans un monastère pour devenir un moine copiste. Et d'un coup, paf, la presse abaisse la barrière technique. Le no-code fait exactement ça. On formule un problème en langage naturel, avec nos mots, et l'IA génère l'architecture du logiciel derrière.
C'est fou quand on y pense. Et c'est ce qui permet une hyperlocalisation des solutions. Un étudiant éthiopien, il n'a plus du tout besoin d'attendre qu'un ingénieur dans la Silicon Valley décide enfin de s'intéresser aux défis de l'agriculture locale.
Ou de la logistique à Addis Abeba, ouais.
Exactement. Il génère lui-même l'outil dont il a besoin. Et ça, c'est présenté par notre média source comme un véritable levier d'émancipation.
Attends, je vais me faire l'avocat du diable une petite seconde.
Vali.
Le document de Radio Tam Tam parle d'émancipation. Ok. Mais ces fameux outils no-code ou ces API, ils tournent sur les serveurs de qui à la fin?
Ah, bah oui, la question de l'infrastructure.
Bah oui. Ce sont des modèles d'IA qui sont entraînés en Amérique du Nord ou en Asie. Si l'entreprise qui fournit l'API, demain elle décide de multiplier ses tarifs par 10, ou alors de couper l'accès pour des histoires de géopolitique.
C'est le blackout.
Voilà.
toute cette galaxie dite de start-up éthiopienne, elle s'effondre dans la seconde. Donc ma question c'est, est-ce qu'on peut vraiment parler de souveraineté si on ne possède pas le modèle de base?
C'est la faille critique de cette étape de transition. Et c'est une observation qui est essentielle dans le document. L'accès aux API, ça permet une innovation très rapide en surface. Mais en même temps, ça crée une dépendance infrastructurelle qui donne le vertige.
C'est clair.
C'est ce que certains analystes appellent le néocolonialisme numérique. En fait, la vraie souveraineté, c'est pas juste utiliser le marteau d'un autre pour construire sa maison. C'est de posséder l'usine qui fabrique le marteau.
C'est une belle image. Donc oui, l'émancipation actuelle, elle est bien réelle sur le plan de l'usage. Les gens créent des choses. Mais structurellement, ça reste très fragile.
Ok, donc on a cette effervescence sur le terrain. Elle est puissante, mais dépendante de l'extérieur. Or, le document nous montre que cette agilité, elle trouve des applications directes pour protéger quelque chose de très très intime, l'identité culturelle.
Oui, on entre dans un domaine super intéressant là.
C'est la deuxième partie du script. On bascule dans le domaine de la création, du cinéma africain, avec une innovation très spécifique, le doublage cinématographique par intelligence artificielle.
Et là, il faut bien comprendre le mécanisme technique derrière, parce que c'est révolutionnaire. On ne parle pas du tout de la voix monocorde et robotique d'un vieux GPS.
Ah non, pas le fameux « tourner à droite tout plat ».
Non, ça n'a rien à voir. Les nouveaux modèles d'IA, ils analysent les spectres vocaux pour cloner littéralement l'ADN de la voix de l'acteur.
C'est-à-dire que, en fait, ça ne remplace pas juste les mots. L'algorithme, il va cartographier les phonèmes, le grain de la voix, la respiration, la fréquence, et il lui fait prononcer une nouvelle langue.
Tout en gardant le même pic émotionnel.
C'est ça le truc de dingue. Que l'acteur crie de colère ou qu'il chuchote un secret, l'IA garde ça. Et le document souligne d'ailleurs que les langues locales sont soudainement valorisées. Et tout ça a un coût vraiment dérisoire.
Si l'on relie ça à la situation dans son ensemble, c'est un véritable séisme pour l'hégémonie culturelle mondiale.
Clairement.
La domination de l'industrie hollywoodienne, par exemple, elle repose pas que sur la qualité des scénarios. Loin de là, elle repose sur un monopole de distribution qui coûte extrêmement cher. Payer des studios de doublage, des ingénieurs du son, des comédiens, dans 50 langues différentes, ça demande des budgets colossaux.
Des millions de dollars.
Exactement. Et seul un système super centralisé peut se permettre ça.
Et c'est en fait le péage qu'il faut payer pour exporter sa culture. Si on n'a pas les millions pour le doublage, notre film, il reste cantonné à une audience régionale et c'est tout.
Précisément. Et soudainement, l'intelligence artificielle, elle fait sauter ce péage. Le script de Radio Tom Tam, il souligne bien que le cinéma africain peut désormais voyager à l'international, et je cite le texte, « sans perdre son âme ».
Ouais.
Un petit studio indépendant à Lagos, il peut tourner un thriller en Yoruba et l'exporter la semaine d'après en mandarin, en espagnol ou en allemand, avec la même fidélité émotionnelle, et pour une fraction du coût historique. La culture devient une force de projection internationale massive, c'est du vrai soft power.
Pour ceux qui se passionnent pour la culture, c'est un peu le traducteur universel de la science-fiction, mais en vrai. D'un côté, c'est une opportunité de soft power inespérée, mais il y a quand même une question de fond.
Laquelle ?
L'art, c'est aussi l'interprétation humaine du comédien de doublage, non? En automatisant toute cette chaîne, est-ce qu'on risque pas de standardiser l'émotion globale? De remplacer la diversité humaine par un algorithme froid de transfert linguistique?
C'est le paradoxe de toute technologie d'automatisation. On gagne en échelle, ce qu'on perd parfois en artisanat pur. Toutefois, l'angle choisi par l'émission source y met vraiment l'accent sur le désenclavement.
Ouais, sortir de l'isolement.
Pour un marché qui a longtemps été ignoré par les grands réseaux de distribution, juste à cause de la barrière linguistique et financière, l'accès à une audience mondiale, ça prime sur la préservation du circuit traditionnel du doublage.
C'est logique. L'étincelle créative, elle est donc bel et bien là. Le terrain bouge très très vite. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on remarque un décalage massif entre la vitesse d'adaptation de ces développeurs à Lagos ou des cinéastes et la structure même des institutions qui sont censées encadrer tout ça.
Le choc avec la réalité politique, oui.
C'est ça. Le document aborde ensuite la réalité institutionnelle. Il se concentre sur un secteur qui est ultra critique, la santé.
Le script mentionne l'Union africaine. Ils ont désigné Abiy Ahmed comme figure de proue pour piloter l'intégration de l'IA dans la santé sur le continent. Et les mots d'ordre sont clairs, moderniser les systèmes, accélérer la recherche et surtout ne plus subir la technologie étrangère.
Bon, sur le papier, c'est l'initiative parfaite. L'IA a vraiment le potentiel de bouleverser la médecine. On peut imaginer analyser des tonnes de données épidémiologiques pour anticiper des crises sanitaires ou optimiser où on envoie les médecins.
Oui, les promesses sont énormes.
Mais Radio Tam Tam jette un énorme pavé dans la mare. Le document note très clairement que la gouvernance est en retard, que les politiques, c'est surtout de beaux discours écrits dans des bureaux climatisés, mais sur le terrain, face à une vraie crise, les dirigeants sont complètement démunis face aux risques algorithmiques.
Le constat du journal, il est féroce. Ils disent, je cite, « la vraie gouvernance se révèle sous pression ».
Ça pique.
Ouais, ce que le média met en lumière ici, c'est ce fameux mythe du solutionnisme technologique. L'idée un peu naïve qu'il suffirait d'installer un super logiciel prédictif dans un ministère de la Santé pour, paf, régler tous les problèmes d'infrastructure.
La baguette magique.
Voilà. Sauf que les modèles d'IA, ils ne fonctionnent qu'avec des flux de données constants, standardisés et surtout fiables.
Pour faire une analogie, c'est un peu comme décider d'installer le cerveau informatique le plus sophistiqué d'une fusée spatiale directement dans la tour de contrôle d'un petit aéroport de campagne.
Ah oui, où les radars tombent en panne à la moindre tempête.
Exactement. L'ordinateur, il aura beau calculer 1 million de trajectoires à la seconde, si les capteurs qui lui envoient les infos sont cassés, ou si le personnel au sol ne sait même pas lire l'interface sur l'écran, bah la technologie ne sert strictement à rien.
C'est même pire que ça. Elle peut donner l'illusion du contrôle, alors qu'en réalité, le système est complètement aveugle.
Et c'est là que le retard de la gouvernance devient un vrai danger. Un danger tangible. L'outil, aussi puissant soit-il, il remplace pas l'organisation de l'État.
Non. Et si les fondations juridiques, éthiques, administratives ne sont pas capables de gérer la complexité et surtout la vitesse de l'IA, bah, l'intégration de cette technologie, elle ne va pas du tout moderniser le système. Elle va juste accélérer et amplifier les dysfonctionnements qui existaient déjà.
Accélérer le dysfonctionnement. Eh bien, ça nous mène tout droit à la partie, je trouve, la plus glaçante de ce décryptage. Ce que l'émission radio appelle la ligne rouge.
Oui, une vraie mise en garde.
Parce que lorsque la gouvernance n'arrive plus à suivre le rythme, y a une tentation très forte. C'est celle de laisser la machine prendre elle-même les décisions critiques. Et pour illustrer ce danger, le script quitte l'Afrique un instant et pointe du doigt l'exemple très spécifique aux États-Unis.
Le document cite l'émergence de projets qui cherchent à implémenter une justice algorithmique. Des projets qui sont soutenus par des investisseurs de la sphère tech, comme Peter Thiel par exemple.
Des poids lourds de la Silicon Valley.
Oui. Et l'objectif affiché par ces systèmes, c'est de proposer des arbitrages privés, d'automatiser les verdicts, pour créer ce qu'ils appellent une justice accélérée.
Bon, là encore, je vais me faire l'avocat du pragmatisme extrême.
Je t'écoute.
Soyons réalistes 2 minutes. La justice humaine, elle est imparfaite. Elle est super lente. Elle coûte très cher. Les tribunaux sont complètement engorgés. Et puis, les biais des juges humains, ils sont très bien documentés.
C'est un fait, oui.
Donc si un modèle algorithmique peut avaler des dizaines de milliers de jurisprudences et régler un litige civil en 1 millième de seconde, ça décongestionne tout le système. C'est pas la définition même de l'efficacité que tout le monde recherche. Pourquoi on refuserait cette accélération ?
Cela soulève une question importante et c'est vraiment sur la nature profonde de ce qu'est la justice dans une société civile. Il s'agit pas du tout ici de prendre position sur des débats partisans ou politiques américains, mais juste d'analyser factuellement la mise en garde de notre source.
Oui. Restons sur les faits.
L'efficacité mathématique d'un système, ça garantit en rien sa légitimité démocratique. Un tribunal, c'est pas juste une chaîne de montage d'une usine conçue pour recracher des verdicts le plus vite possible.
C'est pas un distributeur automatique de billets, quoi.
Exactement. C'est le lieu de la délibération, de la prise en compte du contexte, de l'empathie et surtout de la transparence.
Or, avec ces systèmes d'IA, on parle d'algorithmes qui opèrent souvent comme des boîtes noires. C'est comme si on confiait le rôle de l'arbitre pour la finale de la Coupe du Monde à un ordinateur dont personne ne connaît vraiment les règles.
C'est le cœur du danger. Si on délègue le pouvoir de trancher des litiges à une entité algorithmique privée, dont le code source est protégé par le secret industriel, on transfère l'une des prérogatives les plus fondamentales de l'autorité publique vers des intérêts purement privés.
On abandonne notre pouvoir de décision, en gros.
Voilà. Et on ne sait pas quels biais ont été encodés dans le système quand il a appris. Le document, il utilise ce cas américain vraiment comme un miroir, un avertissement pour les nations qui cherchent à moderniser super vite leurs institutions. Sous le joli vernis de l'efficacité, le gros risque, c'est de privatiser le contrôle social et de perdre toute souveraineté sur l'équité.
L'intelligence artificielle, elle peut très bien optimiser un flux logistique ou la livraison de colis, mais elle ne doit pas devenir l'architecte du jugement humain. Sinon, on va vers une concentration du pouvoir qui est franchement terrifiante.
Absolument terrifiante.
Ce qui boucle assez parfaitement la réflexion générale de ce document hors du commun. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie, Evelyne, pour ceux qui nous écoutent? Quel est le message final?
Dans son éditorial de clôture, le collaborateur de Radio Tam Tam y pose un diagnostic sans appel. L'intelligence artificielle n'est pas une simple évolution technique. C'est l'instrument de pouvoir ultime de notre siècle.
La mécanique est décrite de façon hyper chirurgicale dans le texte. En gros, celui qui contrôle les données de base, y contrôle l'entraînement de l'algorithme.
C'est l'étape 1.
Ensuite, celui qui contrôle l'algorithme dicte les décisions. Et par conséquent, celui qui dicte les décisions finit par façonner la réalité même de la population.
C'est un résumé parfait de la notion de souveraineté algorithmique. Ce que l'émission souligne en filigrane, c'est que l'importation massive de modèles étrangers, ça signifie inévitablement l'importation des biais culturels, légaux et moraux de leurs créateurs.
On importe tout le package.
Oui. Pour que l'Afrique, ou n'importe quel autre ensemble géopolitique d'ailleurs, puisse véritablement profiter de cette révolution sans en devenir le vassal, il faut contrôler toute la chaîne de valeur. Des serveurs physiques jusqu'aux données d'entraînement.
Et c'est là que l'indépendance revendiquée par Radio Tam Tam, elle prend vraiment tout son sens. L'émission, elle se termine par un rappel de leur modèle sans financement politique. Avec cette devise très puissante, informer, c'est résister.
Très fort comme conclusion.
Ouais. Pour quiconque s'intéresse à l'impact de ces technologies, ce décryptage, il est vital. Il prouve que la technologie n'est jamais, au grand jamais, neutre. C'est l'expression directe d'un rapport de force. Qu'il s'agisse des développeurs à Lagos qui tentent de s'affranchir ou du refus de sombrer dans une justice automatisée en boîte noire, c'est une immense bataille pour l'autonomie.
Je dirais même vertigineuse.
Ah oui. Sur quel aspect ?
Si l'on pousse la logique de ce postulat au-delà des faits relatés par notre source. Imaginons. Que va-t-il se passer dans quelques mois ou quelques années quand ces immenses modèles génératifs auront totalement épuisé les archives humaines d'Internet?
Quand ils auront tout lu, en gros?
C'est ça. Ils vont commencer à s'entraîner majoritairement sur des données synthétiques, c'est-à-dire des textes, des images, des comportements qui ont été créés par d'autres intelligences artificielles.
Ah oui, l'angoisse. Une boucle de rétroaction infinie, quoi. La machine qui apprend de la machine.
Exactement. Et si la réalité dont parle le journaliste est générée par des systèmes entraînés sur des hallucinations d'autres systèmes, la vision du monde qui sera imposée à nos institutions, notre justice, à notre culture, elle sera complètement détachée de l'expérience humaine authentique.
On vivrait dans une matrice qui se nourrit d'elle-même.
On pourrait se retrouver dépendant d'une réalité qui est structurellement inventée par des circuits fermés, où l'humain n'est même plus la source d'inspiration du modèle.
Mais juste un simple spectateur de son propre fonctionnement social. Waouh! C'est vraiment une pensée vertigineuse à garder en tête. On a commencé cette analyse en parlant de la barrière à l'entrée qui s'effondre pour toute une jeune génération de créateurs africains, pour finir sur le risque d'une réalité entièrement synthétique.
C'est le grand écart.
C'est l'illustration parfaite qu'il n'y a rien de linéaire dans cette transition technologique. Chaque avancée libératrice, comme le no-code ou le doublage émotionnel qui supprime les barrières de la langue, elle est accompagnée d'un défi colossal sur la gouvernance et le contrôle.
Tout à fait. C'est un équilibre très fragile à trouver.
Merci à tous d'avoir plongé avec nous dans ces réflexions d'une densité rare aujourd'hui. Continuez d'interroger les outils que vous utilisez au quotidien et surtout, questionnez toujours la nature des données qui façonnent la réalité qu'on vous présente. À très bientôt pour une nouvelle immersion.